Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de fille. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffée et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute.
Chère Anne-Laure, j'ai souhaité redonner la parole à nos absentes. Bonne lecture, Lorraine Descartes. Ce sont les premiers mots que je lis de Lorraine. Je ne sais pas encore que son livre, Nos absentes à l'origine des féminicides, va laisser une trace indélébile et bouleversante dans mon esprit. En l'ouvrant, je pense que je vais mettre plusieurs jours avant de finir ce livre. Je m'attendais à un essai théorique, probablement trop compliqué pour mon esprit. Et en fait, j'ai pas pu le lâcher. Je le lis en 48 heures, j'ai des larmes aux yeux à chaque fois que j'éteins la lumière de ma table de nuit. Nos absentes portent tellement bien son nom. Ces absentes, j'ai l'impression aujourd'hui que ce sont mes sœurs, nos sœurs à toutes. Ce ne sont plus des chiffres seulement, mais des êtres à la fois infiniment proches dont on n'entendra plus jamais la voix. Nos absentes, c'est un essai bouleversant à mi-chemin entre l'enquête, des années d'enquête, le reportage et le récit intime, dans lequel Lorraine tente de comprendre les origines des féminicides. Et elle redonne une voix à toutes celles qui ne peuvent plus s'exprimer parce qu'elles ont été tuées par un conjoint ou un ex-conjoint. Bonjour Lorraine, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de fille.
Bonjour Anne-Laure, merci beaucoup pour cette introduction qui me touche beaucoup.
Je suis hyper contente de te recevoir. C'est peu dire qu'il était évident pour moi qu'il fallait que tu viennes parler au micro de mon podcast après que j'ai refermé ton livre. Alors, comment tu vas, toi, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ressens quand tu es en pleine promotion du livre Nos absentes?
En fait, je suis soulagée parce que je pense que c'est un projet qui a été assez lourd à porter pour moi. Et je suis hyper heureuse de voir le livre exister et aussi d'avoir les retours des personnes qui sont présentes dans le livre, des familles de victimes ou des survivantes, ou des divers professionnels ou experts, expertes qui sont mentionnés et qui sont aussi heureux et touchés de recevoir le livre. Franchement, c'est... une très belle reconnaissance pour moi.
Surtout qu'en plus, c'est 7 années d'enquête, donc c'est quand même énorme. Est-ce que tu as l'impression de refermer une page, de tourner une page avec ce livre?
Pour les affaires, oui et non, parce que déjà, je vais rester en contact avec les personnes qui sont présentes dans le livre et je vais continuer à travailler. Je le referme avec un fort désir de repartir sur le terrain en reportage. J'avais la naïveté au début de cette entreprise de croire que j'allais boucler cette obsession, parce que c'est vraiment une obsession sur les féminicides, les violences conjugales. Et en fait, je referme le livre en me disant qu'il reste encore énormément de choses à raconter, d'histoires à raconter. Et donc, je vais continuer. Mais par contre, pour les absentes qui sont présentes dans le livre, je pense qu'il y a une boucle plutôt qui se boucle, parce que c'est des affaires que j'ai commencé à couvrir au moment du meurtre. Et là, ça va faire quelques années, depuis 2016-2018, et il y a eu les procès aussi. Et je pense qu'il y a quelque chose, oui, qui se boucle, même si évidemment, enfin, le deuil continue, etc. Une première étape qui est franchie avec ce livre en parallèle.
Et tu as eu beaucoup de retours des personnes dont tu parles dans le livre, notamment les familles que tu as suivies, ces familles de ces victimes des féminicides?
Oui, le premier retour, c'était Brigitte Soyer, la mère de Géraldine Soyer. Ouais.
C'est celle dont tu parles en premier, en plus dans ton livre.
Brigitte, donc, c'est la mère d'une victime de féminicide. C'est une dame septuagénaire et qui m'a appelée en me disant vraiment merci, merci. En fait, ce n'est pas les mots qu'elle a utilisés, c'est plutôt l'émotion qu'il y avait dans sa voix et ça m'a fait plaisir. En fait, c'est la première histoire avec laquelle on commence le livre, avec l'histoire de Géraldine Soyer. Donc c'est vrai qu'elle a dû ouvrir le livre et voir le prénom de sa fille. Et après, il y avait ces petites filles aussi qui le lisaient. Géraldine Soyer, c'est la première affaire de féminicide conjugal sur laquelle j'ai écrit en France. Elle a été tuée en 2016 dans la montagne de Reims. Et c'est une affaire assez, symptomatique de ce qui mène au féminicide, dans le sens où c'est un contexte de séparation. Le conjoint, le meurtrier, était connu dans le village, c'est dans un village que ça s'insère, était connu comme un caractériel. En faisant des recherches durant l'enquête, j'ai trouvé aussi des antécédents de condamnation judiciaire pour des violences faites aux femmes, que ça soit sur une ex-compagne ou dans un cadre professionnel. Et quand cet homme a mis à la porte femme et enfant, donc Géraldine Soyer et les deux petites filles qui étaient mineures à l'époque, elles se sont précipitées à la gendarmerie, puisque c'est en zone rurale, pour signaler le départ du domicile. Et les petites, en fait, avaient dit qu'il y avait des armes à domicile et qu'elles avaient peur qu'il y avait des fusils. Et en fait, à l'époque, en 2016, les gendarmes n'étaient pas intervenus. Les fusils n'avaient pas été retirés. Et c'est avec l'un de ses fusils qu'il a tué Géraldine Soyer, qui venait de retrouver un travail dans la bibliothèque municipale avec un fusil de chasse, ce qui est assez fréquent aussi, puisque la plupart des meurtres sont perpétrés par arme à feu ou arme blanche. Et effectivement, le meurtre s'est déroulé devant la fille la plus jeune. Elle s'appelle P parce que, comme elle est encore mineure aujourd'hui, ça c'est de ma volonté, c'est pas à la demande de la famille, j'ai préféré... ne pas mettre son prénom par précaution, parce que la fille aînée, Anne-Lise, à l'époque, elle était mineure, donc en 2016-2017, je ne l'avais pas interviewée. Mais par contre, je l'ai rencontrée il y a une année pour l'écriture du livre. Aujourd'hui, elle est une jeune étudiante en droit, elle est majeure et elle m'a raconté son versant de l'histoire à ce moment-là. Et aussi ce qu'elle devient aujourd'hui.
Tu expliques très bien dans ton livre, c'est souvent la rupture qui est l'élément qui va enclencher le passage à l'acte et donc le féminicide.
Oui, en fait, c'est la rupture ou un moment où la femme, dans un cadre conjugal, elle a des velléités d'émancipation aussi. Ça peut être une reprise de travail ou juste de... Ça peut être interprété de manière différente. Mais en tout cas, c'est un moment où elle reprend, entre guillemets, sa liberté, que ça soit par la séparation ou d'autres formes. Et c'est ça, en fait, qui est assez dramatique, c'est que c'est à ce moment-là que le passage à l'acte létal commence à se préparer. Et c'est pour ça que quand j'ai démarré le travail sur les féminicides conjugales en France, il y avait encore cette lecture du crime passionnel, du drame de la séparation, où en fait ces meurtres, ce qui est une aberration totale quand on s'intéresse de plus près à ces affaires, en tout cas dans la lecture du journalistique, c'était associé à des crimes passionnels, à des faits divers. Et d'ailleurs, ça faisait écho aussi dans les mentalités du reste de la population. Alors qu'en fait, si on doit parler avec une expression, c'est plus des crimes de possession. C'est-à-dire que ce qui déclenche le meurtre, c'est la volonté de récupérer ce que l'homme pense lui être dû. En fait, la violence conjugale, qu'est-ce que c'est? C'est une mécanique de déshumanisation de l'autre, le réduire jusqu'à l'état d'objet dont on peut s'emparer, décider qu'on a un droit de vie ou de mort sur cette personne si l'objet essaye de reprendre sa propre vie.
Complètement. Tu parles aussi, je trouve ça très intéressant, si tu parles de maltraitance médiatique. Je crois que c'est Brigitte,
oui,
qui dit à un moment « Notre histoire ne nous appartient plus ».
Oui, c'est une autre famille. Brigitte, en fait, la première fois que je suis allée chez elle, c'était en janvier 2017. Elle habite à côté de Reims. Donc, c'est la grand-mère de Géraldine Soyer. Et ça faisait plusieurs semaines qu'on se parlait par téléphone. Elle m'avait raconté beaucoup de choses et elle m'avait déjà dit par téléphone ce qu'elle m'a montré quand je suis allée chez elle. C'est les journaux de la presse locale qui illustraient les articles relatant le meurtre par notamment un journal, par la photo du mariage de sa fille avec le meurtrier.
Comment ils ont eu la photo d'ailleurs?
On ne sait pas.
Elle ne sait pas comment ils ont
eu la photo. On ne sait pas. Et puis de toute façon, oui, c'est une question de droit. On ne sait pas. Et surtout, pourquoi? Enfin, c'est participer aussi à cette lecture de l'amour passionnel, etc. Et oui, c'est aussi des choses qui blessent les familles de victimes. Et oui, il y a une forme de maltraitance dans le fait divers. parce que parfois, quand on lit ces faits divers, les victimes n'ont pas de nom, pas de prénom, ou alors c'est ramené au terrain de l'amour, des passions, l'empathie, elle est pour le meurtrier, etc. Et ça aussi, ça participe à une forme de déshumanisation des victimes quand on ne raconte pas qui elles étaient, ou alors qu'on surplombe cette histoire comme si c'était toujours à l'autre que ça arrivait et jamais à soi ou à son entourage.
Et t'expliques toi aussi d'ailleurs que quand t'as fait cette enquête, tu n'avais pas de nom. Enfin, quand t'as enquêté sur les féminicides, t'as dû faire un vrai travail de journaliste pour retrouver ces personnes.
Oui, après je vois beaucoup l'évolution parce que en 2016, j'avais rencontré d'autres familles aussi à cette époque, mais beaucoup considéraient que leur deuil n'était pas politique, ce qui est tout à fait. Enfin, tout le monde a le droit d'envisager son deuil de la fin, c'est très personnel, et n'avaient pas forcément envie que ça s'étale dans les journaux. Et aussi, moi je revendique le titre de journaliste, enfin, j'adore mon métier, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de critiques qui sont faites et une méfiance vis-à-vis des journalistes assez diffuse dans la population. Et ces trois raisons font que souvent, c'est probable que les personnes ne souhaitent pas donner suite. Et comme je ne faisais pas du fait divers et que je travaillais en lien avec les familles autour de cette notion de consentement, j'insistais pas si jamais les personnes n'avaient pas envie de me rencontrer ou n'adhéraient pas à la démarche. Et par exemple, en 2018, quand je me suis replongée dans les féminicides de l'année en cours, les féminicides conjugaux, j'ai remarqué que c'était plus facile de contacter les familles qui en avaient plus qui voulaient me rencontrer, parce qu'il y avait aussi un processus de prise de conscience qui était en cours, qui a été enclenché par tout un tas de raisons dont on va peut-être parler plus tard. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans chaque pays ou dans une grosse partie des pays où il y a eu le concept de féminicide qui a émergé, soit cristallisé autour de la notion de conjugalité en France, ou dans d'autres pays, ça a pu être émergé sous d'autres formes. En tout cas, il y a eu souvent un lien avec les chiffres et le recensement des meurtres. En France, le premier recensement, c'est celui du gouvernement, parce qu'il faut quand même le dire, mais on est dans un pays où le gouvernement, depuis 2006, publie les rapports pour les meurtres conjugaux sur les morts violentes au sein du couple. Donc on sait depuis 2006 qu'il y a entre 110, 120, 130 femmes qui sont tuées dans un cadre conjugal par an. Il y a des pays, notamment la Turquie, où je suis allée, où il n'y a aucune statistique publique à ce sujet. Et donc le décompte repose entièrement sur des bénévoles et des militantes féministes. Et en France, il y a eu un premier déclic qui s'est produit en 2016 avec l'émergence d'un recensement militant sur Facebook, la page Féminicide par Compagnon Wex, oui. Et qui permettait de suivre sur Facebook presque en temps réel, en moyenne un poste tous les 3 jours, tous les 2 jours. Les meurtres, quand ils paraissaient dans la presse, après parfois, c'est ce que je dis, mais parfois il y a juste 2 ou 3 lignes, il n'y a même pas le prénom, impossible de remonter plus loin. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une autre étape qui est en train de s'ouvrir avec l'interorga des féminicides, qui permet aussi d'amener plus de finesse dans la perception du féminicide et de visibiliser aussi d'autres cas de figure, d'autres formes, par exemple les meurtres de travailleuses du sexe, parce qu'il y a l'association Jasmine qui fait partie de l'Interorga, qui est un programme de Médecins du Monde, et d'autres contextes aussi en dehors du cadre conjugal, oui. Et aussi d'inclure les femmes trans. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle compte les suicides forcés, ce qui est quand même extrêmement dur à comptabiliser.
Tu veux dire des personnes qui étaient à bout et des
oui,
femmes
qui étaient à bout. Oui, il y a une histoire comme ça dans mon livre. C'est l'histoire d'Elisabeth, qui est une dame qui vient d'un milieu aristocratique, d'une assez grande lignée, et qui a été en couple avec un haut dirigeant, et qui me raconte que cet homme, par exemple, ce qu'il lui faisait subir notamment, en dehors de la violence physique, c'était qu'il adorait lui cacher des objets et lui dire que soit les objets n'avaient jamais existé, soit il disait, il accusait leur employé de ménage, etc. Il lui disait, mais t'es folle, etc. Et en fait, au bout d'un moment, elle avait fini par presque le croire. C'est comme le film Gaslight de George Cukor. Et oui, et cette dame, par exemple, elle a tenté de se suicider à un moment.
D'accord.
Ce qu'elle raconte.
T'as couvert une dizaine d'affaires. À chaque fois, bah, t'as pu le constater, comme les familles, c'est les défaillances de l'État, notamment dans la non-prise en compte de signalements préalables de ces violences. C'est assez révoltant quand on lit le livre.
Oui, c'est important de le dire parce que, encore une fois, je pense qu'en France, on est en retard dans la lutte contre les violences conjugales de manière générale et la perception des féminicides aussi. qui sont le meurtre d'une femme par un homme parce que c'est une femme, donc c'est un meurtre à mobile misogyne. Mais il y a une autre notion qui a émergé parce que ça renvoie à une longue tradition de recherche universitaire qui remonte dans les années 70 et qui a ensuite été beaucoup étudiée par des chercheuses et chercheurs latino-américains. Oui. Notamment Marcela Lagarde, qui est une femme universitaire, une femme politique mexicaine, qui a beaucoup étudié le cas de Ciudad Juárez au Mexique, qui est une ville assez incontournable quand on s'intéresse aux féminicides. Aussi,
c'est près de la frontière, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Il y a beaucoup d'usines qui emploient énormément de femmes précarisées.
Oui. C'est le théâtre d'un féminicide de masse depuis les années 80, et ça renvoie aussi au lien entre capitalisme et le meurtre des femmes, parce que c'est beaucoup des femmes ouvrières précaires qui sont retrouvées dans l'espace public et qui ont parfois subi aussi des sévices, des crimes exécutés par des moyens sexuels, etc. J'en parle dans le livre, voilà. Et Marcela Lagarde, en allant à Ciudad Juárez, elle a complété la définition du féminicide en disant que c'est un crime de genre, mais c'est aussi un crime d'État, dit Marcela Lagarde, parce que ça renvoie à l'incapacité des autorités à empêcher ces meurtres, à protéger ces femmes, et aussi ça s'inscrit dans un climat de banalisation des violences sexistes et sexuelles. Et en France, quand j'ai travaillé en 2018, j'avais fait une très longue enquête sur les féminicides, qui avait en partie été publiée par Mediapart, et j'avais axé sur les plaintes et les signalements pour violences qui avaient précédé de multiples affaires, parce que j'allais voir les familles un peu partout en France. Et en fait, je remarquais qu'elles me sortaient tout le temps un dossier juridique hyper long et qu'en fait, parfois, elles avaient accompagné la victime pour porter plainte, etc. C'est l'histoire de Laetitia à Strasbourg qui a été tuée ou qui avait été très accompagnée par ses parents qui lui avaient dit voilà, qu'elle avait vraiment du mal à porter plainte et puis elle avait été envoyée deux fois aux urgences par l'ex-conjoint. Il y avait vraiment des preuves. Mais elle avait peur d'envoyer le père de ses enfants en prison, etc. Et ses parents l'avaient beaucoup accompagnée pour lui dire il faut le dénoncer parce que ça va recommencer. Il faut que tu protèges aussi que tu te protèges et que par là tu protèges aussi tes enfants, etc. En fait, Laetitia Schmidt, elle a été tuée à côté de Strasbourg en 2018. Et effectivement, c'est la première victime de féminicide conjugal qui a été tuée alors qu'elle avait déclenché un dispositif qui s'appelle le téléphone grave danger. À l'époque, il était octroyé à plusieurs centaines de femmes en France. Aujourd'hui, quelques milliers, parce que ça a été augmenté dans le cadre du Grenelle. Et en fait, ce téléphone, c'est un smartphone banal, mais quand la femme appuie dessus, les forces de l'ordre interviennent en un temps record, en quelques minutes. Pour D'accord. le cas de Laetitia Schmidt, c'était 7 minutes. Et en fait, c'est accordé à des femmes dont on connaît la situation de danger. On sait qu'elles sont menacées de mort par leur ex-conjoint. Et Laetitia Schmidt, c'est la première à avoir été tuée malgré le
déclenchement.
Oui, en 7 minutes, et ça n'a pas suffi. Ce que dit sa famille, c'est que lui, il venait d'être condamné pour violence conjugale et soumis à une injonction de soins, qu'il avait quand même été condamné. Ce n'est pas le cas de toutes les affaires. Mais selon la famille de Laetitia, l'un des magistrats aurait signalé pendant le procès qu'elle était dotée d'un téléphone grave danger. Et lui, s'il avait fait les recherches, ça se fait très rapidement sur Google, il a très certainement pu comprendre que s'il devait agir, il devait agir vite. Il lui a laissé aucune chance. Elle était agonisante quand les forces de l'ordre sont intervenues sur place. Et ses derniers mots étaient pour ses enfants.
Ouais, elle était inquiète de savoir si ses enfants...
Mais bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce que parfois, c'est aussi des féminicides et des infanticides aussi. Lui s'est suicidé à l'issue du meurtre, ouais. Comme c'est beaucoup le cas, ce qui...
Qui empêche un procès.
Oui, et dans le livre, j'ai fait le procès du meurtrier de quelques procès, notamment celui du meurtrier de Célois, que j'ai détaillé assez longuement. Et il y a quand même tout un travail d'enquête à ce moment-là qui est fait par la justice. Ça coûte extrêmement cher, hein, toutes ces affaires. Il faut le dire, hein, les violences conjugales, on les paye. Les violences intrafamiliales coûtent une fortune à la société. On dit toujours que les associations demandent trop, etc. Mais en fait, on paye déjà tous beaucoup trop.
Et ce que tu dis, ça me fait penser aussi au livre de Lucie Pétavin, qui écrit un livre qui s'appelle Le coût de la virilité.
Oui.
Effectivement, où elle expliquait quand elle est passée dans le podcast que les chiffres font que c'est... Les hommes entendent plus facilement des chiffres quand on te dit « mais non ». Et en fait, le fait de dire « bah si, ça coûte tant, regarde sur ces chiffres-là », ça donnait plus de poids à son argumentaire.
On parle de politique de rigueur, etc. Mais c'est vrai que lutter contre les violences intrafamiliales, et les violences sexistes et sexuelles de manière générale, ça pourrait être une super, j'espère qu'on entend mon cynisme, une super politique de rigueur. Oui. Moi, je cite le travail d'un collectif de chercheuses et chercheurs qui avait été missionné par l'ancien ministère des Droits des Femmes en 2012, qui a estimé le coût des violences conjugales à 3,6 milliards d'euros sur l'année 2012. C'est les frais de justice, 96% de l'activité de justice, c'est en lien avec des inculpés ou des accusés, des prévenus hommes. C'est les soins médicaux, c'est aussi le manque à gagner pour tous les traumatismes que ça provoque. Oui. Ça coûte une fortune.
Dans les récits qui sont dans ton livre, il y a une pluralité des profils des auteurs de féminicides, mais notamment aussi parce que c'est des personnes qui viennent de milieux très aisés, alors qu'effectivement, on peut avoir tendance à avoir l'image de crimes qui ne sont commis que par des personnes venant de milieux défavorisés. Moi, j'avoue que j'avais cette image-là. Je pensais que les féminicides, ça touchait que... Et en fait, t'expliques que ça touche tous les milieux.
Oui, c'est l'un des... Il y a quelques idées reçues qui résistent encore beaucoup trop quand on arrive sur le terrain des violences conjugales. Et l'idée que ça ne concerne que l'autre, oui. L'étranger, le pauvre, voilà. Moi, quand j'ai... Ou celui qui n'a pas de chance, le cas social, etc. C'est aussi une manière de rejeter ou de limiter la politisation de ces violences parce qu'on se dit, bon, bah, ça ne nous concerne pas tout à fait. C'est ce que dit d'ailleurs l'anthropologue argentino-brésilienne Rita Segato quand elle parle d'un processus de dissociation cognitive qui fait qu'en fait, c'est tellement horrible de regarder la réalité en face qu'on préfère toujours se dire que ça ne nous concerne pas ou que ça concerne les autres. On peut faire beaucoup de parallèles d'ailleurs entre c'est des violences intrafamiliales, mais l'inceste et les violences conjugales sur cette difficulté à regarder la réalité en face. Quand on regarde la réalité en face, en fait, on voit que c'est que ça concerne beaucoup trop de monde, voilà, que c'est très diffus, que ça concerne tous les milieux sociaux, toutes les couches de la société. C'est aussi pour ça que j'ai une pluralité de témoignages dans le livre. Et que j'avais fait cette enquête, une partie c'est tirée d'une enquête que j'avais fait dans les milieux bourgeois de l'Ouest parisien, où j'avais travaillé sur les violences conjugales. J'avais notamment travaillé en lien avec une avocate qui s'appelle Migline Rosset, qui est basée à Neuilly, et avec tout un tas d'associations et d'acteurs dans les Hauts-de-Seine notamment. Et en fait, ce dont je m'étais rendu compte, c'est que très souvent, il y a moins de plaintes. Mais c'est aussi une réalité statistique. Il y a moins de plaintes, en fait. Plus on monte dans la hiérarchie sociale, moins il y a de plaintes. Il n'y a pas cette tendance à aller rapporter des faits de violence à la police. Ça se joue plus dans les cabinets feutrés des avocats. Statistiquement, hein, je ne dis pas que ça n'arrive jamais, mais que statistiquement, il y en a moins. Il y a moins cette tendance qui fait aussi que, du coup, il y a encore moins de condamnations.
Ouais. Et puis, donc, il y a cette... évidemment, ça touche tout le monde. Et aussi le fait que c'est... pas seulement des violences physiques, c'est aussi des violences psychologiques et morales.
Oui, ça c'est une autre idée reçue où on dit violence conjugale égale violence physique, qui est d'ailleurs véhiculée par ce slogan « Une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint » et je l'ai dit au début de l'entretien, mais la plupart du temps ces meurtres ne sont pas perpétrés à main nue mais par arme blanche ou arme à feu. Et en fait, je pense qu'il faut... le livre aussi, Nos absentes, c'était aussi une réflexion sur ce qu'est la nature des violences, ce que sont les violences conjugales. Et je pense dissocier le discours ou l'association automatique violence conjugale égale violence physique. Il y a des victimes qui n'auront, de féminicides notamment, en tout cas, aucune trace de violence physique n'a pu être détectée. Et dans les témoignages, la violence physique arrive de temps en temps et parfois de manière répétée. Mais la violence conjugale, c'est quelque chose, c'est un climat, un environnement. C'est pour ça que j'aime bien les travaux de ce chercheur américain qui s'appelle Ivan Stark et qui travaille avec la notion de contrôle coercitif et qui explique que pour lui, la violence conjugale, c'est comme une prise d'otage de l'intime et qui donne l'image d'une cage dans laquelle les victimes, donc la plupart du temps des femmes, sont enfermées et que les barreaux, la plupart du temps aussi, sont invisibles. Ça peut être de la violence physique, mais c'est aussi beaucoup des stratégies de micro-régulation du quotidien, d'humiliation, de contrôle des finances, etc. Les micro-régulations du quotidien, j'étais très étonnée du nombre de fois où j'ai entendu des récits, des moments où les victimes, les anciennes victimes me parlaient de liens avec l'alimentation. Que ça soit Magali, la survivante de féminicide, qui me dit, on pourra en parler de Magali parce que c'est une histoire très importante dans le livre, mais qui me dit que l'une des choses qu'il a le plus détruite, c'est la fois où il a forcé à cuire un steak, ou une autre témoin qui me raconte que tous les soirs, quand elle rentrait chez elle, elle avait un questionnaire ménager très très pointu et qu'elle devait vraiment se soumettre tous les jours à un véritable supplice ménager, et que si jamais elle n'y arrivait pas, c'était des crises de colère de la part de son conjoint, sachant que cette dame, elle travaillait aussi. Ou par exemple, Madeleine, son mari, c'était le patron d'une importante agence d'architecture, son ex-conjoint. Et quand il partait pour des voyages d'affaires, il lui coupait le gaz. Et c'est ça aussi, la violence conjugale. Elle habitait dans une maison gelée, une assez grande maison, et elle lavait ses enfants avec la bouilloire. Elle faisait chauffer l'eau du bain avec la bouilloire. Et en fait, tout ça, c'est ce qui compose aussi la situation de violence conjugale.
Ton récit, je trouve qu'il est aussi extrêmement puissant parce que tu parles de l'après pour les familles des victimes de féminicide, notamment pour les enfants, et combien le quotidien il est compliqué. Tu parles notamment de Anne-Lise, on en a parlé au début, une des filles de Géraldine Soyer, qui a une difficulté extrême pour obtenir une bourse. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de statut spécial pour les enfants victimes de féminicide, alors que c'est quand même les victimes collatérales.
Anne-Lise et les orphelins, orphelines de féminicide, pour moi, c'est des victimes directes parce que c'est des personnes qui ont grandi dans un climat de violence. Le féminicide, c'est le passage à l'acte létal, mais c'est aussi un meurtre qui s'inscrit dans un continuum de violence pour la victime, la femme, avec parfois, c'est les exemples que j'ai décrits tout à l'heure, mais aussi pour l'environnement. Anne-Lise, quand je l'ai revue, elle m'a raconté ce que c'était de grandir avec, c'était son beau-père, avec cet homme, les humiliations qu'il lui faisait subir, et c'était assez dur à entendre tout ça. Et effectivement, on pourrait croire que, voilà, une fois que le meurtre s'est produit, c'est fini. C'est d'ailleurs le temps du fait divers, on n'en parle pas ensuite. Alors que quand on suit les familles ou quand on est concerné, quand on les accompagne, en fait, ça continue. C'est ce que dit d'ailleurs Sandrine Boucher, la présidente de l'Union nationale des familles de victimes de féminicide, qui est un mouvement qui fédère des familles de victimes en France, qui est assez important, et qui dit on pourrait croire que tout s'arrête pour les familles, alors qu'en fait, ça ne fait presque que commencer, parce qu'il y a les frais de justice, il y a les frais de funérailles, ça coûte extrêmement cher d'enterrer quelqu'un. Tout le monde n'a pas les moyens comme ça. Il y a ce que me disait Brigitte quand on s'est appelé avant que je la rencontre, la paperasse, ça lui prenait un temps fou. Les droits pour avoir les aides sociales à la CAF, pour obtenir le droit de garde, aussi le fonds de garantie d'indemnisation pour les victimes, ça prend des années et des années. Anne-Lise, elle n'a toujours pas reçu la totalité, ça fait... 7 ans que sa mère, elle est décédée, et paix la petite sœur non plus. Et effectivement, quand j'ai revu Anne-Lise, donc elle me racontait qu'elle était étudiante en droit, ce qui est hyper fort symboliquement, puisqu'elle avait dit à la gendarmerie, saisissez les fusils, et rien n'avait été fait.
Elle l'avait dit, ouais.
Et sa petite sœur paix aussi. C'est grâce à son témoignage que je peux le dire, parce qu'à l'époque, je l'avais pas. C'était pas un témoignage de première main, c'était la grand-mère. Comme elles étaient mineures à l'époque, la première fois que je les avais vues, je les avais pas interviewées. Là, j'ai pu échanger avec Anne-Lise parce qu'elle est adulte maintenant. Et donc, elle m'a donné son versant de l'histoire, et notamment, elle m'a confirmé ce qu'on m'avait dit pour les fusils, mais là, c'est un témoignage direct. Et oui, effectivement, elle me racontait aussi qu'elle avait des problèmes avec le CROUS, donc cet organisme qui alloue des bourses pour les étudiants, parce qu'ils ne comprennent pas sa situation. Ce qui veut dire, techniquement, qu'elle est obligée de leur expliquer ce qui s'est passé dans sa famille. Enfin, c'est atroce. Ouais. J'étais tellement mal pour elle quand elle m'a raconté ça. Et
il y a un vrai sentiment de solitude, en fait.
Oui, oui.
C'est hallucinant.
C'est des personnes qui sont laissées. C'est ça. C'est ça. Et
non,
je pense que...
Tu perds ta maman qui est tuée par ton père ou par un conjoint. Et en plus, après, rien n'est fait pour aider, accompagner, pour continuer une vie qui est déjà quand même pas évidente, en fait.
Et en France, il existe quelque chose qui s'appelle les pupilles de la nation, qui concerne les orphelins dans un contexte militaire et aussi dans un contexte d'attentats terroristes. Et donc, c'est des enfants qui sont, entre guillemets, si je peux dire grossièrement, adoptés par l'État, ou en tout cas, ils bénéficient d'énormément d'aides. Et
c'est encadré.
Voilà, c'est ça, notamment une aide financière pour les études, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait de la responsabilité de l'État de réfléchir à ce qu'il est possible de faire pour les orphelins, orphelines de féminicide. D'autant plus quand on sait que très souvent, les femmes avaient porté plainte, avaient dénoncé des violences, etc. Donc, il y a quelque chose...
Il y a une défaillance.
Bien sûr, et je pense que quand on parle de responsabilité, il faut aussi questionner cette responsabilité vis-à-vis de l'État pour ses enfants, et c'est quelque chose qui est porté par l'Union nationale des familles de victimes de féminicide, qui réfléchit en ce moment à un statut pour ces orphelins orphelines qui impliquerait notamment une forme de bourse pour leur permettre de vivre sans trop de difficultés financières, en tout cas qu'il n'y ait pas trop d'impact à ce niveau-là. Et c'est en discussion en ce moment au Sénat.
D'accord.
Enfin, en tout cas, c'est porté par une sénatrice. Voilà.
Aujourd'hui, tu penses que les choses seraient différentes si quelqu'un allait porter plainte en disant qu'il a des fusils chez lui ?
Oui, bah, y a eu une prise de conscience, il y a eu des formations dans la police, etc. Après, ce que disent les associations, c'est qu'il y a encore de trop nombreuses... problème dans l'accueil des victimes. Et moi, en tant que reporter sur le terrain, j'entends encore énormément de fois des histoires de femmes qui n'ont pas été reçues par la police ou mal reçues, pas écoutées. C'est extrêmement fréquent.
Dans ton livre, t'en parles aussi, je sais plus.
C'est Magali, je pense.
Ouais. Ou en gros, je sais pas, sa plainte a été perdue. Ou là, il y a une espèce d'aller-retour assez.
Ouais. En fait, Magali, c'est une survivante de féminicide. C'est une histoire. Voilà. Enfin, il y a plusieurs histoires qui reviennent dans le livre, dont celle de Magali. C'est une mère de famille. Elle a une trentaine d'années. Elle habite à Montreuil. Et en fait, elle est donc survivante de féminicide. Son ex-compagnon a été une fois jusqu'à la tirer une balle qui l'a frôlée. D'ailleurs, leur enfant, il était bébé, il était à côté. Et c'est un peu une histoire qui incarne pas mal, si on en vient à une lecture psychologique, l'emprise, qui permet, je pense, de comprendre pourquoi elle revient tout le temps, etc. Il y a une forme de captivité psychologique qu'elle décrit extrêmement bien.
Elle a un déclic, d'ailleurs, quand il lui dit, si je me rappelle bien, plus tard, son ex-conjoint... Ouais. Dit à leur enfant, plus tard, il faudra faire comme moi, il faudra taper sur maman ou sur ta femme, je ne sais plus.
Ouais.
C'est un déclic pour elle. Je crois que c'est là où elle prend son enfant et elle s'en va.
Oui, le déclic passe aussi souvent par les enfants, c'est-à-dire que en tout cas, dans les violences conjugales, quand elles oublient de penser à elles ou de se sauver, parfois, quand... les enfants commencent à être attaqués ou à être impliqués, parfois, pas tout le temps, mais c'est là où il y a un déclic. Magali, elle dit que c'est un court-circuit inverse.
Oui, c'est vrai.
Elle raconte en fait que cet homme, quand il lui parlait, c'est comme si en fait il prenait possession de sa tête et qu'elle faisait exactement ce qu'il lui disait. Et en fait, il y a aussi, pour dire que parfois ça se passe bien, il y a un policier aussi, la fois où les policiers sont intervenus suite à ce coup de feu, il y a eu un policier qui l'a pris et qui l'a écouté, qui lui a dit « Vous savez, cet homme, il recommencera. C'est pas un comportement, c'est vraiment un homme qui est structurellement violent et qui répond par la violence dans beaucoup de cas de figure. » Et quelqu'un qui lui dise ça, ça l'a beaucoup aidé aussi. C'était un policier, c'est important de le dire quand ça se passe bien. Et cet homme, donc il a été emprisonné. Bon, il a fait, au moment du procès, 14 condamnations, donc c'est un multirécidiviste. Quand il ressort de prison en mars 2018, qu'est-ce qu'il fait ? Il laisse un message vocal à Magali. Je l'ai écouté parce qu'elle a enregistré tout en lui disant « t'es morte, t'es morte, t'es morte ». Magali, à cette époque, elle avait aussi le téléphone grave danger. Donc, elle faisait partie de ces femmes, a priori reconnues comme en danger de mort, ordonnance de protection. Elle va au commissariat de Montreuil. Et en fait, aucune suite à sa plainte parce qu'ils lui disent « on ne sait pas comment faire pour interpeller monsieur ». Il a donné une fausse adresse, une mauvaise adresse. Il sort de prison quand même. Et en fait, pendant ce temps-là, il était où ? Il était à côté du métro Charonne, rue Léon Frot. Il s'est lié avec une autre femme qui s'appelait Séloua, qui est une femme extrêmement importante dans le livre. Et en quelques mois, il a tué. Et lui, pour le coup, c'est un meurtre à main nue. Il a tué ses lois. Et Magali, elle a découvert cette affaire en lisant Le Parisien. Elle a vu un homme, Rue Léonfroy. Elle savait qu'il traînait vers ce quartier-là. Et c'est assez étonnant. Mais en fait, elle a compris qu'il avait tué quelqu'un, une autre femme. Et je l'avais accompagnée une fois. Elle allait... l'appartement, comme beaucoup, il est sous-cellé. C'est d'ailleurs un problème pour les familles pour récupérer ne serait-ce que des vêtements pour les enfants, etc. Donc les logements sont sous-cellés. Et l'appartement de ses lois, il était resté longtemps sous-cellé. Et Magali, elle était allée écrire des choses sur le mur pour ses lois, déposer des fleurs aussi, etc.
Ton récit, c'est un récit qui est intime parce qu'on a l'impression de faire réellement connaissance avec toutes ces femmes, avec leurs familles qui ne sont plus là aujourd'hui. Mais c'est aussi un récit intime parce que ça parle de toi, en tant que femme, en tant que fille, en tant que sœur. Donc si t'es OK, on va en parler un petit peu. Il y a forcément des phrases qui sont assez marquantes. Tu dis qu'il y a une phrase qui t'a marquée au fer rouge. C'est ton beau-père qui te dit un jour, toi, tu vas finir femme battue.
Oui, c'était pas sa meilleure...
C'était pas sa meilleure punchline
ça, Non. Oui, en fait, quand je parle de continuum des violences dans les féminicides, je pense qu'on est toutes, en tant que femmes... impactés d'une manière ou d'une autre par ce continuum, ne serait-ce que par les inégalités de salaire, les blagues sexistes ou quand quelqu'un nous fait une sale réflexion au travail ou dans la rue, enfin ce qui s'appelle le harcèlement sexiste. Et effectivement, dans ce livre, je fais coexister la voix de la journaliste ou aussi, enfin je pense qu'on l'a compris à ce stade de l'enregistrement où aussi il y a un côté coulisses, etc., où je raconte aussi comment je travaille sur ce terrain. En marge, enfin en filigrane, mais il y a aussi ma voix en tant que femme, et je pense qu'il s'inscrit quelque part sur ce continuum de violence, que ça soit des violences sexuelles ou intrafamiliales.
Est-ce que tu savais dès le début, quand tu as commencé le livre, que tu allais parler de toi, ou c'est en fait c'était un cheminement?
C'est une super bonne question. En fait, le livre, j'ai mis autant de temps à l'écrire, à le conceptualiser, à oser voir une maison d'édition, etc. Parce que je ne savais pas comment me placer. En fait, je ne savais pas quelle position adopter pour ne pas... Oui, parce que moi, j'ai une formation très classique de journaliste. J'ai fait des études de sciences politiques et après, j'ai fait une super école qui s'appelle le Centre de formation des journalistes. Et en fait, quand on est étudiante en journalisme, on nous dit ne pas dire... Bon, à l'époque, en tout cas, ne pas dire « je ». Un journaliste qui dit « je », c'est un mauvais journaliste. Et la plupart du temps, c'est vrai, c'est insupportable, les journalistes nombrilistes, etc. Et je ne savais pas exactement... Et donc, dans mes articles, dans mes reportages, sauf projet exceptionnel, comme pour la revue Gaze, qui est plus un projet d'autrice. En tout cas, je suis jamais présente dans les reportages. Je mets beaucoup de moi parce que c'est des projets qui me tiennent à cœur, etc. Mais c'est vraiment du reportage de facture classique où on ne dit pas « je suis pas présente », etc. Et c'est normal. Mais pour ce livre, je savais que je voulais écrire le livre que j'avais envie de lire et qu'il fallait que peut-être que je sorte littéralement du placard d'ailleurs et que je sache comment me positionner. Je pense que c'est ce qui fait la différence entre un travail de journaliste et un travail d'autrice, c'est que quand on est autrice, il faut aussi assumer sa propre voix. Moi, j'ai eu beaucoup de mal parce que c'est des histoires tellement lourdes. Il fallait quand même trouver le bon positionnement. Moi, je me pose beaucoup de questions et je me prends souvent la tête et j'avais vraiment peur. Je ne voulais pas que ça soit indécent, donc il fallait que ça soit respectueux et que les héroïnes du livre, c'est elles, c'est les absentes.
Oui. C'est pas incompatible. En tout cas, moi qui ai adoré le livre, ce sont elles les héroïnes, mais pour toi, il y a eu un cheminement aussi par rapport à ton enfance, etc. Oui. C'est passionnant à lire.
Oui, en fait, je pense que ça complète la lecture et ça permet de raconter des choses que j'aurais pas pu raconter autrement, notamment l'impact de certaines violences. Après, parfois, c'est aussi des événements joyeux ou quand je raconte mon adolescence. Je l'écris pas comme ça, mais c'est aussi la culture, la girl culture, etc. J'ai adoré mon adolescence au bord de la mer. Mais ça raconte aussi beaucoup de choses sur comment on se construit en tant que femme, aussi l'éducation à l'hétérosexualité, moi qui ne m'allais pas du tout, mais qui occupait toutes nos conversations quand on était ados, etc. Et je pense que la difficulté que j'ai eue à parler d'un moment de violence physique dans ma famille raconte aussi beaucoup de la difficulté à en parler tout court. En fait, pourquoi c'est aussi dur de parler de la violence conjugale ? ou des violences intrafamiliales de manière générale. Et pourquoi est-ce qu'on a cette tendance à dire que ça concerne toujours l'autre ? C'est parce que c'est trop dur, en fait, d'en parler. Les auteurs de violences conjugales, à divers degrés, c'est des hommes qu'on aime, c'est les membres de nos familles, c'est parfois aussi nos compagnons. Enfin, en fait, il y a aussi des liens affectifs, et c'est ces liens affectifs qui rendent la prise de parole si difficile. Et moi, dans mon cas, j'avais très peur de demander à mon père qu'est-ce qui a provoqué le divorce de mes parents, et se souvenir de quand j'avais 6 ans et où j'ai vu mon père lever la main sur ma mère. Honnêtement, j'avais tellement honte de ce souvenir, et je pense que cette honte que je porte, elle peut parler aussi à beaucoup de monde. Personne n'est fier dans ma famille de ce souvenir, on n'en parle pas beaucoup. C'est important de le dire par respect pour les miens, mais donc il y a eu cet épisode de violence physique, ensuite il y a eu la séparation, il n'y a pas eu de harcèlement, etc. par la suite. Enfin voilà, c'est en tout cas, moi ça m'a énormément traumatisée.
Et, tu le dis très bien dans une phrase, tu dis qu'importe, cela n'aurait jamais dû se produire. Du haut de mes 6 ans, j'ai eu peur le temps d'un instant que mon père ne soit en train de tuer ma mère.
Ouais. Et d'ailleurs, j'ai une amie qui s'appelle Pauline Verdusier, qui est l'une de mes consœurs et amies, qui travaille beaucoup sur le travail du sexe d'ailleurs, et avec qui je suis en train de développer un projet. Je lui ai raconté le livre et tout. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenue dans le projet du livre. Et elle m'a fait découvrir La honte de Annie Arnaud, où en fait, elle raconte aussi le début du livre, mais je ne le connaissais pas à l'époque. C'est quelque chose d'assez similaire, c'est un souvenir assez similaire. Ça m'a donné beaucoup de courage de le lire. Mais il y a beaucoup de livres que j'ai lus qui m'ont donné du courage pour écrire ce livre.
Moi, ça m'a beaucoup touchée. Je trouve que c'est essentiel d'entendre une parole comme la tienne. Et effectivement, ça fait penser à la honte qu'on peut avoir. Quel souvenir on a ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Est-ce que c'est vraiment ça qui est important, en fait ? De savoir ce qui s'est passé exactement. Si tu écris ce livre-là, c'est qu'il y a aussi quelque chose de toi que tu as ressenti, que tu as vu.
Oui, à partir du moment où les deux personnes concernées, mes parents, sont d'anciennes victimes et un ancien auteur de violences conjugales, il y a aussi que c'est quelque chose qui est dans le passé. Donc, par contre, je pense que c'est important pour la réparation de poser les mots, de dire qui a été victime, qui a été auteur à ce moment-là, et d'en parler. Il y a quelque chose aussi de très beau dans ce livre, c'est que mon père, il est extrêmement fier de moi. J'avais vraiment tellement peur, Anne-Laure, de parler de tout ça. Ouais. Enfin, c'est pour ça, en fait, que j'ai mis autant de temps à écrire ce livre. Et je sais qu'il est fier de moi et que c'est ce que je raconte à la fin. Je ne vais pas trop spoiler, mais sa réaction quand je lui fais lire, parce que je lui ai fait lire avant, etc. Et je pense que c'est peut-être que j'ai de la chance, mais peut-être aussi que c'est porteur d'espoir de dire que c'est possible de parler de la violence dans nos familles. Après, peut-être aussi comme c'est un événement qui est survenu il y a des années et des années, et que maintenant tout le monde a refait sa vie, etc. C'est peut-être plus facile que quelqu'un qui est encore dans le déni. Après, il a utilisé les mots, etc. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est qu'on ait réussi à communiquer. Ouais.
Et tu l'expliques aussi très bien. Tu dis que les enfants exposés aux violences conjugales ressentent un traumatisme plus lourd que s'ils avaient été en zone de guerre. Ton livre, c'est aussi un super beau témoignage et hommage sur les enfants, en fait.
Oui.
Ceux qui restent.
Alors, cette phrase, c'est marrant, mais la première fois que je l'ai entendue, donc c'était dans le local de Solidarité Femmes à Besançon, où j'étais allée pour couvrir le meurtre de Razia, qui était une exilée afghane. Et je vais juste faire une mini parenthèse, parce que je pense que c'est important de raconter cette histoire. Mais Razia, elle avait été mise à l'abri par Solidarité Femmes. Il y avait eu 7 plaintes déposées contre son ex-conjoint, qui était toujours légalement son mari. C'était 2 demandeurs d'asile d'origine afghane. Et 6 plaintes déposées par elle, une par son avocate. Et lui, il avait retrouvé son adresse parce qu'il avait reçu par erreur un courrier de la Sécurité sociale qui lui avait appris que son fils il était hospitalisé à Besançon. Et il avait du coup quitté Marseille où ils étaient à l'origine, et il était allé la harceler à Besançon. Il attendait souvent à la sortie du tramway où elle sortait avec son panier de course, etc. Et elle était allée au commissariat. Une fois, une policière, une femme d'ailleurs, lui avait dit « Mais madame, ce monsieur, c'est juste un père qui veut voir ses enfants. » Ça passe aussi beaucoup par les enfants, le contrôle conjugal et les violences, etc. Et en fait, il a fini...
Tu veux dire, tu m'empêches de voir mes enfants, j'ai besoin de voir mes enfants, c'est ça ?
Oui, mais il faut aussi qu'il y ait... une femme qui a été mise à l'abri et qui est sous ordonnance de protection. Les enfants aussi, ils en ont parlé au procès, sont témoins.
Ah oui, je me souviens.
Ouais.
Le fils est
son enfant, il lui dit oui. Il dit devant, au moment du procès à Besançon, où je suis allée à l'automne dernier, il dit je veux qu'il aille, que mon père il aille le plus longtemps possible en prison. Il avait 15 ans. Il dit ça devant son père, qui sombre dans un déni terrible pendant ce procès. Après, bon, il y a le problème aussi de la traduction où il ne parle pas français. Enfin, ça pose aussi question dans l'accès à la justice, etc. Bon, il y avait une traductrice qui était quand même une interprète qui était assez forte, assez compétente. Mais il dit ça et lui, ce meurtrier, il avait attendu Razia à la sortie du tramway. Il a tué de plusieurs coups de couteau. Et au moment du procès, qu'est-ce qu'il trouve à dire ? Il ose mentir et dire « c'est Razia qui transportait le couteau ». Ce qui, je trouvais, était assez symbolique de son déni, c'est-à-dire l'incapacité à reconnaître que l'arme du crime, c'est lui qui l'avait transportée de son appartement jusqu'au tramway. Même, il dit ça devant ses enfants. Ah, j'ai trouvé ça mais tellement terrible. Et donc, la première fois que je suis allée à Solidarité Femmes, qui aujourd'hui, c'est important de le dire, collabore en bonne entente avec le commissariat local. Il y a eu des changements, il y a maintenant une salle. C'est parfois des choses très basiques comme avoir une salle spéciale pour recueillir les plaintes pour les affaires de violences intrafamiliales, sexistes et sexuelles, et aussi de prévoir une deuxième sortie pour éviter que, au stade du commissariat, la plaignante ne croise l'agresseur présumé dans le commissariat. La présidente à l'époque de Solidarité Femmes, Christine Perrault, me disait qu'effectivement, les enfants exposés aux violences conjugales ressentent un traumatisme plus lourd que s'ils avaient été en terrain de conflit. Et à l'époque, en fait, je faisais plusieurs allers-retours en Irak pour couvrir le conflit contre le groupe État islamique. Et moi, cette comparaison m'avait semblé un peu indécente, j'avoue.
D'accord.
Parce qu'il y a un côté en France où parfois on va aller chercher des exemples à l'étranger pour se rassurer ou pour dire c'est pire chez nous. Enfin, où parfois on peut pas tout comparer et tout mettre sur le même plan, etc. Et au final, je pense qu'il y a quand même pas mal de comparaisons entre l'impact de la zone de conflit. Voilà, en fait, c'est une forme de guerre en fait entre ces deux parents. C'est une ligne de front qui se crée. C'est voilà, deux parties qui s'affrontent. Enfin, une partie qui est assaillant et l'autre qui essaye de se défendre. Et la comparaison, ça crée des lésions graves, en fait, dans la vie des enfants et des adultes à venir.
Je l'avais entendu, cette comparaison aussi pour les victimes d'inceste. Dans la dernière partie du livre, tu expliques que tu as passé un mois au centre Clotaire, dans le Pas-de-Calais, pour écouter les auteurs de violences à l'encontre des femmes. Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que tu dis à un moment, je veux entendre ce qu'il se passe dans la tête des agresseurs.
Oui, en fait, j'avais déjà travaillé en tant que reporter sur les auteurs de violences conjugales, mais c'est vrai que j'ai passé énormément de temps, plusieurs années côté victime, à documenter le parcours des familles de victimes, et je pensais que j'avais pas été encore assez en profondeur côté auteur pour comprendre exactement et apporter une réflexion nouvelle aussi sur les responsables de ces actes. Et j'avais rappelé Arras, où j'avais déjà été. Arras, il y a un foyer, un dispositif pionnier qui s'appelle le Homme des Rosati, qui a été l'un des premiers centres pour la prise en charge et la responsabilisation des auteurs de violences conjugales, c'est-à-dire qu'en lien avec le tribunal d'Arras, quand il y a une plainte pour violences conjugales qui a été déposée avec un dossier assez solide, mais quand même pour des primo-délinquants, donc c'est des premières condamnations. Après, je fais une petite parenthèse, mais première condamnation au niveau de la justice ne veut pas dire que c'est qu'il n'y a pas eu des récidives. En général, il y a parfois des années de récidives, etc., mais qui n'ont pas entraîné plainte, etc. Et ils sont placés dans un foyer pour permettre à la victime et aux enfants, quand il y en a, de rester à demeure. Quand bien même l'homme règle le loyer ou est le propriétaire, c'est à lui, maintenant, il y a une loi qui a été votée, à lui
partir.
Ouais, en principe. Bon, après, dans la pratique, souvent, c'est pas forcément. Mais en tout cas, là, dans le contexte de Arras, il y a cette possibilité. C'est assez bien appliqué. Et en fait, en rappelant le psychologue qui dirige le groupe de responsabilisation, donc c'est-à-dire la prise en charge thérapeutique, il m'a dit « mais venez sinon pour suivre l'intégralité d'un groupe de responsabilisation ». Donc en fait, il m'a donné accès à cet espace. Je crois que je suis la seule journaliste à y avoir eu accès dans la longueur. Et c'était passionnant.
Ah bah ça se ressent, c'est passionnant. Ouais. C'est flippant.
Ouais,
le
aussi.
Déni,
oui.
Je parle en tant qu'être humain, tu as envie d'en secouer certains. Tu as envie de le dire, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ? On a l'impression qu'il y a un moment, il y a une personne. Alors, il l'appelle, l'homme joker ou l'homme bonus.
Ah oui, à la base, c'était une perle, je crois qu'elle dit ça comme ça, c'est les plus coriaces.
Voilà, c'est ça, tu as raison.
Oui.
C'est un homme qui a complètement déconstruit ou...
Non. En tout cas, il a entamé. Alors en fait, donc ce processus de ce groupe de responsabilisation, il s'étale sur 5 semaines. Il est encadré par une psychologue, Frédéric oui. Dorancy, et une travailleuse sociale, Séverine Lescoutre. Après, moi, quand j'y étais, elle était en congé à ce moment-là. Donc le groupe, il s'est fait avec Frédéric. Et en fait, c'est de réunir autour de la table plusieurs de ces hommes qui sortent de garde à vue, première fois souvent qui sont en garde à vue. Et en fait, c'est dans le laps de temps entre la garde à vue et le passage en correctionnel. Ouais. Mais ensuite, souvent, ils sont dans la condamnation. Il y a aussi une injonction de soins, ça s'appelle, ce qui fait qu'ils sont supposés continuer à consulter au Homme des Rosati, l'espace pour la prise en charge thérapeutique, ça s'appelle le Centre Clotaire, et c'est piloté par une association très importante dans le nord de la France qui s'appelle SOLFA, Solidarité Femmes Accueil, et qui a aussi des foyers pour les femmes, etc., et les enfants. Et donc, quand j'ai été la première fois autour de cette table avec ces hommes, il y avait un électricien, un comptable, un ancien militaire et un jeune de 25 ans au chômage, un jeune père de famille. Donc, des profils assez divers. Par contre, la mécanique du déni, c'est la même pour tout le monde. C'est qu'elle l'a bien cherché, j'ai été poussée à bout. Moi, je me sens aussi victime dans cette situation et j'espère que ça va être reconnu, etc. Et en fait, au fur et à mesure de la discussion, donc des rendez-vous et aussi du travail des travailleurs et travailleuses sociales côté foyer d'hébergement, il y a un effet miroir qui peut s'enclencher et où, en parlant les uns les autres, ils peuvent parfois s'auto-réguler ou se questionner ou pointer les zones d'ombre. Ça s'est beaucoup fait entre l'électricien et le comptable, où par exemple, le comptable, il disait au fur et à mesure, bon alors au départ, il nous parle de son histoire d'amour, etc. Bon, bah, y a des liens affectifs. Mais au fur et à mesure des séances, on se rend compte quand même qu'il a forcé madame à rester assise sur un fauteuil. J'ai jamais su combien, si c'était 5 minutes ou 3 heures. Enfin, c'est-à-dire, est-ce que c'était une forme de séquestration ou pas. Ce que j'ai lu quand j'ai eu accès à l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, c'est qu'il y avait aussi de la violence physique dans la façon dont il a forcé à rester assise, et que surtout les enfants aussi ils avaient été violentés. Et en fait, la détection, elle s'est faite à l'école parce qu'il y a eu un enfant. Le corps enseignant s'est rendu compte qu'il y a eu un enfant qui avait subi des violences et ils ont questionné les enfants. C'était des fils et ils ont rappelé un souvenir, donc le souvenir de cette scène de violence où le père a forcé madame à rester assise entre guillemets, hein, faut entendre, sur le fauteuil. Et lui, il ne comprenait pas, cet homme, pourquoi le souvenir, il remontait. Bon, après, honnêtement, ça n'a été jamais très clair de quand ça s'est passé, ouais. etc. Ce qui est aussi caractéristique de... Voilà, enfin, il commençait un peu à s'en mêler les pinceaux, etc. En tout cas, à un moment, l'électricien lui dit, mais attends quand même, si jamais, qu'importe quand ça s'est passé, si le petit, il en parle à l'école, c'est que ça a dû quand même le traumatiser. Et à partir de ce moment-là, pour ce monsieur comptable, il y a eu au moins une première vanne qui s'est ouverte et où il a pu commencer à se questionner. Et voilà. Ce que j'ai remarqué, c'est que bon, bah, en quelques semaines, on ne change pas quelqu'un. Par contre, on peut le rendre volontaire pour entamer un vrai travail de responsabilisation, plus seulement uniquement parce qu'il y a la contrainte judiciaire, que c'est un travail qui prend plusieurs mois, mais je pense surtout plusieurs années, qui doit être volontaire et que... Il y a un moment de retournement dans ces groupes ou alors en entretien individuel où en fait le responsable n'arrive plus à se regarder dans un miroir. Et en fait, c'est lui qui s'envisage presque comme un monstre et que cette étape qui est peut-être nécessaire pour prendre conscience de la gravité et des lésions qu'on provoque dans la vie des gens, que ça soit à tous les niveaux, elle est nécessaire. Après, le but, c'est pas que ce soit non plus des hommes détruits, mais qu'il puisse y avoir une reconnaissance de ce qu'ils ont fait, mais totale, hein, et pas seulement du déni ou de juste dire « je l'ai giflé » comme si ça résumait voilà, le problème. Et qu'il puisse aussi voilà, se reconstruire. Pourquoi ? J'espère que c'est pas trop difficile à entendre pour les victimes ce que je suis en train d'expliquer, mais c'est très pratique en fait. C'est qu'un homme auteur de violences conjugales, il fait souvent plusieurs victimes dans sa vie et que le problème de la récidive, il est au cœur des politiques de lutte, enfin, il doit être au cœur des politiques de lutte contre les violences conjugales, et qu'en fait, ces hommes, si jamais ils ne prennent pas vraiment conscience de ce qu'ils font, ou alors qu'ils sont dans un effondrement psychique, bah, ça peut faire d'autres victimes. Et que, en fait, très souvent, après une première condamnation, s'il n'y a pas un accompagnement pour la responsabilisation, il y a d'autres condamnations, il y a un fort risque de récidive.
Bah, comme pour le meurtrier de ces lois.
Oui, alors après, dans le livre, je fais quand même la distinction entre auteur de violence conjugale et homme violent, c'est-à-dire qu'un auteur de violence conjugale, qui peut être atroce, etc., mais le recours à la violence, c'est un comportement, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelqu'un qui est violent, et c'est bien le problème aussi. Hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça montre bien aussi la spécificité machiste de tout ça.
Ouais.
C'est que, par exemple, il a un problème financier, il va pas aller taper... ou hurler sur son banquier ou sa banquière. Il y a quelque chose qui se joue aussi dans le rapport conjugal entre un homme et une femme, et des attentes, et parfois du sentiment de possession, etc. Et de ce qu'une femme doit, que ça soit l'écouter, l'attention, le rassurer, fournir des services sexuels, enfin, ce qui s'appelle du viol conjugal, aujourd'hui c'est reconnu, etc. Enfin, c'est beaucoup aussi des attentes. Et c'est aussi pour ça que le groupe de responsabilisation, il y avait aussi un travail sur les stéréotypes sexistes, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a quelques scènes épiques dans le livre.
C'est, ouais. Ça fait sourire aussi. C'est à la fois tragique, mais cette partie, elle est... Parfois, je me dis, est-ce qu'il faut la prendre avec humour ? Mais comme tu dis, je pense aussi au...
Je vais t'en parler ensuite. Mais juste, du coup, pour les auteurs, un homme violent, c'est quelqu'un qui se construit structurellement dans la violence. Et par exemple, le meurtrier de ces lois, au moment du procès, il a été reconnu par les experts comme une personnalité psychopathique. Voilà, enfin, lui, je pense que c'est un homme violent qui répond par la violence dans quasiment toutes les situations de la vie. Alors que l'auteur de violences conjugales, et c'est bien le problème, autrement, il peut paraître extrêmement charmant, et c'est bien pour ça que souvent, il y a une difficulté de l'accès à la preuve et d'être cru pour les victimes. Quand il est charmeur, que tout le monde autour dit « mais quel père merveilleux », etc. C'est l'histoire, par exemple, de... Elisabeth, dont le mari lui cachait des objets et plein d'autres choses aussi, et qui a été poussée au suicide... À la tentative de suicide, tout le monde lui disait « Mais quelle chance tu as d'avoir un mari incroyable !» Voilà.
Après, c'est un peu le débat, et pour moi, qui est assez tranché et qui est normal. Enfin, justement, non, qui n'est pas normal, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comment tu peux être un bon père si tu tapes ta femme ? Évidemment que tu ne peux pas être un bon père si tu tapes ta femme. Enfin, je veux dire, c'est...
Non.
Parce qu'au moment, on a qui disait ça. Oui, il faut qu'il voit ses enfants. Enfin, non.
Non. Après, il y a un texte législatif, le premier texte législatif contraignant à l'échelle du continent européen, c'est la Convention d'Istanbul. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que je parle aussi de la Turquie à un moment dans le livre. La Turquie s'est retirée de la Convention d'Istanbul, voilà. Mais dans ce texte, il y a l'interdiction de procéder à des médiations conjugales quand il y a eu un terrain de violence conjugale. Pourquoi ? Parce que le conjoint agresseur peut reprendre le contrôle de sa victime sous prétexte de... On ne peut pas dialoguer à équité quand l'une des parties a fait usage de la violence contre l'autre. Et oui, c'est pour ça aussi qu'il faut un travail de responsabilisation quand on en est venu à lever la main sur la mère de ses enfants ou sur n'importe qui d'ailleurs. Ou à insulter aussi, ne serait-ce que les insultes peuvent être parfois très banalisées dans les contextes conjugaux. Et donc, pour le dernier chapitre, effectivement, c'est aussi quelque chose dont je me suis rendu compte, c'était hyper intense comme immersion avec les auteurs de violences conjugales. C'est que paradoxalement, j'ai trouvé ça plus facile, entre guillemets, de travailler côté auteur que côté victime. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une victime, elle est polie. Ou les familles de victimes, c'est des personnes qui sont traumatisées, qui ont un discours qui est souvent très peu clair, parce que parfois, on oublie des trucs. Quand on est traumatisé, la mémoire, elle est hyper impactée, etc. Et c'est aussi pour ça que c'est difficile. C'est des dossiers qui prennent du temps pour les avocats, pour les plaintes, qu'elles soient traitées à la police, etc. Et en fait, il faut prendre en compte ça, qu'en fait, plus une victime, elle a parfois un discours incohérent, plus parfois, c'est qu'il y a des raisons de s'inquiéter, etc. Mais ça prend aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Alors que l'auteur de violences conjugales, au départ, son discours, il est très clair. Et c'est cette légèreté qui m'a beaucoup questionnée, beaucoup heurtée. Et je me suis dit, au final, qu'est-ce qui apporte réparation à une victime et à la société ? C'est la condamnation, le fait de reconnaître à un moment qu'il y a une victime qui a eu un auteur. Je pense que c'est important aussi pour sortir de ça et se dire à un moment qu'on a été victime, qu'on est une ancienne victime, etc. Je pense aussi à une réparation financière, parce que ça coûte extrêmement cher de se défendre quand on est victime, qu'importe son milieu social. Ça coûte tellement cher. Mais je pense aussi que quand un homme auteur prend conscience de la gravité de ce qu'il a fait, il perd de sa légèreté et que peut-être qu'il en redonne un petit peu, ou l'ancienne victime ou les anciennes victimes peuvent peut-être espérer récupérer ce qui leur a été volé, c'est la légèreté. Ouais. Les victimes, elles ne sont jamais légères.
On va passer aux petites questions, enfin pas petites, on va dire ça, on va passer aux questions de la fin. Je ne sais pas si tu connais Annick Cogent, enfin, si tu écoutes le podcast.
Bien sûr, et j'adore, je n'en serais pas arrivée là si son entretien sur Le Monde. Et
justement, j'adore. Je vais te demander de compléter cette phrase, je ne serais pas arrivée là si...
Oula, je pense que je ne serais pas arrivée à écrire ce livre si au tout début, ma mère ne m'avait pas inscrite... sans vraiment me prévenir au concours du Sciences Po Bordeaux de ma région d'origine, donc le Sud-Ouest.
D'accord.
Où je pense que de moi-même, j'aurais jamais osé m'inscrire à ce concours en me disant « mais non, mais jamais je vais le réussir » et tout. Et au final, j'avais été acceptée et ça m'avait permis d'accéder quand même à une super formation pour l'enseignement supérieur.
Qu'est-ce qui t'anime ?
J'adore mon métier, j'adore aussi, j'ai adoré aussi écrire ce livre et qui est une autre forme d'écriture. Et j'adore le reportage, mais j'adore tellement le terrain.
Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer ?
La remise en cause de la parole des femmes, c'est quelque chose qui me met de plus en plus en colère parce que ça fait écho aussi au livre. Souvent, c'est des femmes qui n'ont pas été crues. Et cette minimisation, cette dévalorisation de la parole des femmes à tous les niveaux, ça me met en rogne. Je trouve que c'est tellement injuste. Quand une femme parle, on va dire que c'est du témoignage. Quand un homme parle, on va dire que c'est de l'expertise, etc. Et oui, ça me met très en colère.
Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de Genre de fille ?
Il y en a beaucoup. Après, dans le livre, à la fin, je fais une petite bibliographie des livres qui m'ont accompagnée, je vais te dire. Peut-être que je peux en citer. Vanessa Springora, par exemple. Bon, elle a déjà été pas mal interviewée. Je vais citer un livre.
Vanessa Springora, pour ceux qui... Bon, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui connaissent. C'est l'autrice de... C'est Le Consentement, c'est ça ?
Oui.
Oui, c'est ça. Ouais.
Qui est l'un des livres, l'un des récits... ou une œuvre auto-fictionnelle, je ne sais pas exactement comment
j'ai
le qualifier.
Adoré ce livre aussi.
Ouais, j'ai très hâte de lire ses autres livres, qui s'est inscrit aussi dans ce mouvement de prise de la parole sur l'inceste, etc., qui a vraiment créé un précédent. Peut-être ma consoeur Pauline Verdusier, qui travaille sur le travail du sexe, que j'adore.
Et la question de la fin, quel genre de fille es-tu, Lorraine ?
Oula, c'est trop dur comme question.
Je sais.
Je pense que je suis quelqu'un de passionné et de déterminé, ça on me le dit tout le temps.
Merci Lorraine pour cet échange. Lisez le livre Nos absentes, à l'origine des féminicides. C'est un livre d'utilité publique. Merci beaucoup Lorraine.
Merci pour l'invitation.
Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de fille sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de fille, suivez-moi @AnneLaureBaratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut !
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.